c'est mon boulot. C'est pas un loisir. Parce que si c'est un loisir, tu fais pas 35 bouquins à 35 ans. Un de mes mentors m'a dit, en gros, t'aurais plus besoin de travailler. Là, je te fais un chèque de 10 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, moi, j'écris des livres si j'ai rien d'autre à faire. Il me dit, écris des livres maintenant. Pourquoi tu veux attendre? Combien de gens m'ont dit, je voudrais parler de ça, de ça et de ça? Alors fais 3 livres.
C'est super. Écoute, pour te donner un petit aperçu, j'aimerais tellement qu'on parle de livres, de ton nouveau livre qui va arriver, mais aussi de ton processus d'écriture, de ton processus créatif et d'organisation, parce que moi, ça m'impressionne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Rémi Raher, si tu ne connais pas Rémi, il a sorti plus de 30 livres. Alors que beaucoup de personnes sont en mode, oui, j'aimerais sortir un livre, mon premier livre, dans les 3 prochaines années. Rémi, il en a déjà fait 30.
35.
35! Ah bah, tu vois, c'est beau. Mais là, quand t'as dépassé 30, t'es plus un livre près, hein, n'est-ce pas? comment plutôt autant de livres? Et en combien de temps?
Alors pourquoi ou comment?
Comment?
La même façon qu'on mange un éléphant. Une bouchée à la fois. Donc, comment je fais autant de livres? Non pas un livre à la fois, ce serait exagéré, peut-être un chapitre à la fois ou une page à la fois. Et comment? C'est souvent ce que je dis. La question qu'on me demande le plus souvent, c'est « Mais quand est-ce que t'écris ?» Et souvent, j'ai pas le temps de répondre. Qu'on me dit « La nuit ?» Non, j'écris pas la nuit, j'écris le jour. Tu travailles le jour, écrire, c'est mon boulot. C'est pas un loisir. Parce que si c'est un loisir, tu fais pas 35 bouquins à 35 ans. Donc c'est mon boulot. Je considère que c'est une forme d'art et que c'est mon boulot au même titre que, tu vois, on enregistre ce podcast aux alentours de 15h, pas à 23h quand on a le temps de faire ça. On donne la priorité à ce qu'on veut prioriser. Et voilà, tout simplement.
Mais c'est ça que je trouve incroyable. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit, tout simplement, quand j'écris un livre, je me réveille, il y a des personnes qui vont aller travailler je ne sais pas où. Moi, j'écris des livres et c'est un travail.
C'est exactement ça, et je gagne le temps du trajet, le temps de la machine à café. Je suis chez moi, j'ai un ordi, et je suis pas en train de regarder Netflix ou je ne sais quelle chaîne d'infos. J'ai mes notes, mon clavier, et j'avance.
Ok. Et du coup, tu t'étais dit que tu devais faire un livre par année, c'est ça? C'est ça ton standard?
Alors en fait, c'était les premiers que j'ai écrits, je les ai écrits parce que je voulais écrire.
Ok.
Quand je me suis... j'ai quitté un emploi extrêmement bien rémunéré pour plein de raisons. On est en France, donc ça sert à rien d'être hypocrite. Tous ceux qui disent « je me suis lancé dans le vide », c'est pas vrai. Quand t'as un emploi avant, t'as 2 ans de chômage devant toi. Donc c'est simple, j'avais 2 ans pour vivre de ce que je voulais faire. Et un de mes mentors m'a dit en gros, t'aurais plus besoin de travailler. Là, je te fais un chèque de 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu fais? Et je lui ai dit, j'écris des livres si j'ai rien d'autre à faire. Il me dit, écris des livres maintenant, pourquoi tu veux attendre? Et trouve le moyen de les vendre. Et voilà, du coup, je savais, on était en janvier 2015, si je me trompe pas. Les 6 premiers mois, voilà, ton truc, tu le réfléchis, tu te lèves pas un matin avec la science infuse, tu réfléchis à ce que tu veux faire.
Yes.
Et sa question, c'était qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je disais écrire, mais écrire, c'est être blogueur, c'est être journaliste, c'est aussi être web marketeur, parce que tu fais du marketing de contenu. Et moi, je sais pas pourquoi... tu parlais de ma poésie de quand j'avais 14 ans, mais voilà, j'ai toujours voulu être auteur ou écrivain. Donc c'était écrire des livres. Donc pour être auteur de livres, il faut écrire des livres. Et je me suis lancé ce défi un peu fou et un peu con, mais finalement productif, d'écrire un livre par mois.
C'est incroyable.
Les 5 premiers mois, ça le fait. Après, ça devient très compliqué.
Pourquoi ça devient compliqué?
2-3 derniers mois, les livres sont moins bons.
Pourquoi est-ce que c'était compliqué?
Parce que tu fatigues. Parce que tu fatigues. Alors, j'écris pas de romans, donc c'était pas des suites. C'était parfois des sujets, d'ailleurs toujours des sujets différents finalement. Parce que même quand j'écrivais des livres de droit, c'est pas du tout pareil d'écrire un livre de droit constitutionnel que d'écrire un livre de droit des institutions européennes. Bien sûr, c'est du droit, bien sûr, il y a des institutions. Mais tu changes complètement de sujet, c'est pas comme approfondir quelque chose. Et c'est ça qui est fatigant, c'est de passer d'un sujet à l'autre. Et puis, le fait aussi que c'était un exercice très solitaire. J'avais pas d'éditeur, j'avais décidé de m'auto-éditer, de créer ma structure éditoriale, parce que bah, tu veux publier un livre par mois, c'est pas possible chez un éditeur. Et puis, chaque fois que tu vends un bouquin, tu gagnes entre 50 et 1 centime et 1 euro. Donc, pour en vivre, bon courage. Donc, voilà, il y avait ce mélange de productivité forcée, de solitude. Alors, moi, je vis assez bien la solitude, mais sur du boulot, c'est plus compliqué parce que t'as pas de retour. T'as personne pour t'aider vraiment. À part des gens pleins de bonnes intentions qui vont lire un truc, mais les gens connaissent pas forcément ni le métier de l'édition ni ton sujet. Donc même si alors t'as ceux qui sont sympas, qui disent ah, c'est vachement bien, mais ça t'aide pas. T'as ceux qui te disent oh le sujet de merde, bon bah ça t'aide pas non plus.
Oui, j'imagine.
Parce que c'est la répétition qui crée l'apprentissage.
Ok.
T'as un retour immédiat, c'est bien, c'est pas bien, comment corriger? Et j'ai fait pareil avec mes livres. Bon bah certains ont été réédités, alors c'est bien. Parfois, on pense que c'est parce que tu as du succès que tu es réédité, mais c'est aussi parce que tu juges que ton livre n'est pas super et qu'il vaut mieux le refaire. Donc, il y a eu quand même un peu de ça. Tu vois, Fasting, qui est le livre que j'ai le plus vendu, qui est sorti en juin 2015, je crois. Je pense que la première version fait 130 pages très aérées et d'ailleurs très contestées. Si tu regardes les premiers commentaires que j'ai sur Amazon, les gens critiquent le vocabulaire que j'emploie, les tournures de phrases. Ils ont l'impression que c'est un livre qui a été traduit de l'anglais, enfin de l'américain pour être précis, parce qu'il y a un côté très oral. Ils n'aiment pas, donc j'ai corrigé ça aussi. Tu prends en compte les retours que tu as, tu améliores ton truc. Aujourd'hui, c'est un livre qui doit faire les 180 pages. Et je crois que j'ai plus aujourd'hui, enfin j'ai peut-être parfois quelqu'un qui dit c'est de la merde, ok, mais plus quelqu'un qui critique ni le style, ni la prose, etc. Parce que je l'améliore au fur et à mesure.
Donc, un des premiers conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui créent du contenu, qui cherchent à écrire des livres, c'est peut-être juste d'en écrire un maximum, c'est ça, et de pas trop se soucier de la qualité.
Alors surtout, c'est d'écrire.
Surtout d'écrire.
D'en écrire un maximum, pas nécessairement, mais de se forcer à écrire parce qu'il y a ce qu'on publie et puis il y a ce qu'on écrit. Et en général, c'est pas égal. C'est un petit peu un des pièges du numérique finalement, c'est que tu écris sur Word et tu retravailles ton propre texte. Donc tu n'as pas la trace de ce que tu as produit avant, donc tu vois pas à quel point ça peut être mieux si tu n'en as pas gardé une trace. Moi, j'ai un pote qui est auteur. Lui, chaque fin de journée, il enregistre sa version sur son drive. Et il numérote toutes ses versions. Donc, tu peux voir du jour 1 au jour 60 ce qu'il a écrit, ce qu'il a changé. Et idem dans ce qu'ils appellent, bah, c'est un américain, ce qu'ils appellent les rounds d'édition. Donc, c'est des allers-retours avec ton éditeur. Il garde toutes les versions. Alors, moi, j'ai pas cette discipline. C'est vrai que des fois, je le regrette un peu. Parce que, parfois, je tombe quand même sur des brouillons et je me dis, ah ouais, quand même, c'était pas super. Et j'espère que j'ai pas publié ça. Et du coup, je vais voir le bouquin et non, j'ai pas publié ça parce que c'était pas bien. N'empêche que il y a cette phrase dans l'édition qui est, on ne publie pas une page blanche. Enfin, on n'édite pas une page blanche. Tant que tu n'as rien écrit, tu ne peux rien améliorer.
Oh, ok, donc
Donc il faut le
c'est
faire.
il faut
Et
commencer.
c'est un édito de Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est quand même quelqu'un qui a réussi dans plein de domaines, il dit tout simplement commencer par commencer.
Tout simplement. Et du coup,
Voilà.
l'auto-édition, c'est le choix que t'as fait pour tout simplement publier à la fréquence que tu souhaitais, c'est ça?
Alors oui et non. C'est que d'abord, c'est très difficile de trouver des éditeurs au début,
Ok.
c'est très difficile d'imposer tes conditions à un éditeur, et c'est très difficile de vivre de ta plume si tu passes par un éditeur. Pourquoi? Parce qu'un éditeur va te donner entre, je voudrais pas donner d'espoir aux gens, mais disons entre 6 et 10, allez 12%, mais plutôt entre 6 et 10% de droits d'auteur sur le prix de vente de ton livre hors taxe,
Hors taxe, ok.
et ne te versera ces droits d'auteur qu'au bout d'un an au mieux. C'est-à-dire qu'un éditeur fait ses comptes annuellement, et toi, tu touches l'argent quand il peut te les verser parfois. Donc, ce n'est pas forcément rapide. Alors que si tu fais ça tout seul, la plupart des plateformes d'édition, alors il y a parfois un décalage de 1 ou 2 mois, mais en tout cas, tu es payé mensuellement. Ce qui, à moins d'avoir une rente, est toujours très pratique d'être payé tous les mois parce que tu peux au moins gérer un budget. Alors qu'il monte et qu'il descend, ce n'est pas linéaire. Mais entre ça ou attendre un an. Et puis, à l'unité, tu touches plus de sous. Sur un livre que tu vends 10 euros, pardon, tu vas toucher 3,5 euros à la louche, hein, suivant les plateformes. Là où chez un éditeur, bah, tu vas toucher les pourcentages que je t'ai donnés, donc peut-être 80 centimes.
Mais t'as quand même sorti quelques livres avec une maison d'édition. Pourquoi?
Alors, quasiment tous, en fait, quasiment tous, au final,
Ok.
alors, il y a ceux que j'ai sortis, et il y a ceux qui ont été rachetés.
D'accord. Ok,
Donc là,
tu vois,
autant te
je
dire, c'est
savais
une
même
fausse
pas que les
blague.
livres, ça se rachetait, pour te dire.
Si, c'est des droits d'exploitation en fait. Donc, il est arrivé plusieurs fois que des éditeurs m'appellent en disant, ah, vous avez fait ce bouquin, il est vachement bien. Bon, par contre, il est que sur Amazon. Chronique d'un étudiant en droit, par exemple, c'est un éditeur donc qui s'appelle Henrik Barbillon, de Henrik B. Édition, et qui m'a appelé, qui me dit « Ah, j'ai vu que vous faisiez des bouquins de droit, super intéressant, et un temps, sur votre blog, vous avez une approche très proche des étudiants, très coaching, pas du tout comme les enseignants. Est-ce que vous pourriez raconter, en gros, votre vie d'étudiant, est-ce que vous savez maintenant pour réussir, quoi ?» Bon, j'allais pas lui dire merci pour l'idée, allez vous faire foutre, je vais sortir mon livre tout seul. Puis bon, le gars était sympa et tout, donc voilà, ça s'est fait comme ça, ça s'est bien passé. Et puis finalement, les livres de droit, parce que c'est essentiellement des livres de droit que je fais chez des éditeurs, c'est plus facile quand ils se retrouvent en librairie, parce que bah, c'est une question de public et de réflexe. Tu es étudiant en droit, le prof te dit qu'il faut ceci, cela, et tu vas le chercher à la FNAC, chez Cultura ou dans une librairie proche de chez toi.
Ouais.
Mais difficilement sur Amazon. Si tu l'as pas vu en librairie, le livre n'existe pas. Il y a un peu ce truc-là quand même.
Donc ça reste quand même. Et tu penses que c'est toujours le cas en 2020, à l'heure où beaucoup de personnes achètent sur Amazon ?
Ça dépend alors le terme à la mode, c'est ta niche. Ça dépend de ta niche. Si tu vends du roman, les romans se vendent beaucoup sur Kindle, les livres pédagogiques beaucoup moins. Après, ça va se faire, et le coronavirus encore plus. Alors là, je veux pas dire du mal du monde de l'édition en général, mais il y a énormément d'éditeurs qui m'ont appelé en mars, avril, m'expliquant à quel point c'était le drame, que les librairies étaient fermées, et savoir comment moi je faisais. Et là, je faisais une réponse tout con qui était, ben, Amazon et Fnac.com, c'est pas fermé. Ah ouais, mais nous, on n'a pas d'e-book. Alors bon, bah, tu peux essayer d'être poli, mais ouais. Ce que tu penses quand même,
ouais.
C'est mais comment en 2020, ouais. T'as pas d'e-book explique-toi. Ouais. Ah oui, bah, je vais demander à un graphiste de me les faire. Mais non, demande pas un graphiste, tu télécharges un fichier Word, tu vois. C'est le truc. Bah, c'est pas comme si c'était compliqué de produire un e-book. Tu prends, tu vois, là, ça c'est le livre donc, dont tu parlais.
Croire que tout est possible, ouais.
Voilà. Ça, c'est chiant à faire. Il y a des dimensions et tout. Parce qu'il y a l'épaisseur de la tranche, la hauteur, machin, et ça, t'es conditionné par ton éditeur, par ton imprimeur, par ton livre. Bref, il y a plein de contraintes. Un e-book, tu prends ton manuscrit tout pourri sous Word, alors corrigé de préférence, pof, t'as ton fichier et t'extrais ta couve. Mais à la limite, tu vois, t'as un fichier qui fait ça et qui est donc dimensionné et tout. Tu fous n'importe quoi, ils te le mettent au format Kindle, au format Kobo, et hop, c'est réglé. Le truc, enfin, si le livre est produit et que la couverture existe, c'est une minute de temps de travail et les mecs te disent « Ah, mais nous, on l'a pas.
Mais c'est vrai, hein, maintenant que tu dis ça, c'est vraiment un process qui peut être hyper simple. C'est ce que j'avais fait quand j'avais sorti mon livre il y a 2 ans, le week-end de 7 jours. Je l'avais écrit en 10 jours et je m'étais dit, bah, tu sais quoi, hop, je paye quelqu'un pour faire la relecture et pour faire la mise en page. Et je me suis juste chargé de le mettre sur Kindle et le livre était en ligne 3 semaines après, quoi.
Ben ouais.
Et c'est une belle époque, hein, quand même. Hein.
Mais ouais, mais ça se fait toujours, en fait. Moi, Fasting, alors j'ai plein de potes graphistes que j'ai rencontrés après dans d'autres fonctions professionnelles qui me disent « Ah, ça m'intéresserait de faire ta couve et tout, parce que des fois, j'aime pas et tout. » Alors déjà, que t'aimes ou que t'aimes pas une couve, c'est hyper subjectif. L'avis d'un graphiste est rarement le bon. Typiquement, « Ah, j'aime pas la couve de ton bouquin de droit. » Ok, mais est-ce que t'achèterais un bouquin de droit ? « Ah bah non, je m'en fous. » Bon, bah alors qu'est-ce que tu me parles d'un bouquin de droit ? Tu vois, tu t'en fous du livre de droit. Mais ils me font des fois, par curiosité, je leur ai demandé des devis pour des couvertures. T'es en centaines ou en milliers d'euros. Alors, je reprends toujours le même exemple, c'est Fasting parce que c'est le bouquin le plus vendu. La couverture, le design m'a coûté 5 euros et la mise au format, donc épaisseur de tranche et compagnie, a dû m'en coûter 5 de plus.
Oh là là, t'es en train de tuer l'industrie, hein, Rémi, hein. T'es au courant?
Mais non, mais alors, évidemment, tu regardes, c'est pas pro. C'est pas net. Tu vois, c'est pas de la HD, voilà. La couverture, c'est pas de la HD. Quelqu'un qui achète Fasting, est-ce qu'il achète de la HD ? Ou est-ce qu'il se dit, c'est quoi ce truc, jeu intermittent, j'ai entendu parler, tiens, je suis tombé sur le blog de ce mec, il en parle pas mal, j'aime bien son ton, ou il a l'air bizarre, mais il pense différemment. Enfin bref, en fait, il a une raison et il l'achète. Le premier truc qu'il fait, c'est pas, ah quand même, la couverture, tu vois, j'aurais mis en HD.
Donc cette phrase qu'il faut, qu'il voir, faut pas juger un livre à sa couverture, elle n'est pas toujours exacte.
Mais en fait, t'es jugé à ta couverture. Mais la question, c'est quel angle ? Parce que le bouquin que tu vas acheter sur Amazon, tu vois la taille de l'image. Ben voilà, c'est ça qui va te convaincre. Le livre, une fois que tu l'as commandé et tout, c'est pas un beau livre, et j'ai pas prétention à faire des beaux livres. Évidemment, je fais pas un truc dégueulasse. Faut quand même que la couverture elle soit attractive et que la personne, quand elle reçoit chez elle, se soit propre. Enfin, c'est une question de respect, tu vois. C'est comme tu parlais tout à l'heure de faire corriger ton livre, t'envoies pas un truc avec des phrases pas finies, des verbes mal conjugués et tout, tu vois.
Ouais,
c'est outrancier.
Il y a un minimum, ouais.
Voilà.
Et du coup, toi, tes livres, quelles opportunités ils ont pu t'apporter? La première qui te vient à l'esprit.
Plein.
Plein.
Plein, plein, plein. Alors, le premier, c'était un recueil de poèmes. L'essentiel d'opportunités quand j'étais ado, c'était les filles.
Très
De
bonne
là à dire que c'est des vraies
opportunité.
opportunités, c'est pas vrai, parce qu'en fait, ça te dessert d'écrire des poèmes. Ça marche pas du tout comme technique de drague. Il y a que à la télé que ça
Je suis
marche.
d'accord. Plus jamais j'écris des poèmes pour à part si on est marié ou quelque chose comme
Non,
ça.
ça marche pas, ça
Ouais.
marche pas. T'es le poète inaccessible et tout, c'est pas cool. Mais.
Ouais.
Mais par contre, voilà, ceux d'après, qui étaient des ouvrages professionnels, un qui s'appelait Discours et Protocole, c'est simple, ça m'a donné un boulot en politique pour écrire les discours d'un président d'exécutif local. Donc le livre, j'ai été payé au forfait pour le faire, j'ai jamais touché de droit d'auteur. Bon, si j'ai dit oui à ce moment-là, c'est que j'avais besoin de l'argent, donc je regrette pas, mais surtout ce que ça m'a apporté derrière, c'est ça. Et ce qui a suivi, c'était Discours du manager. C'est un livre qui s'est pas vendu foufou, hein. Bon, aujourd'hui, il y en a peut-être 10 exemplaires par an, genre quelqu'un qui tombe dessus, tu vois, dans les trucs, tu sais, bradés, là. Quel est votre armoire avec ce livre à 2 euros? Il a dû se vendre, voilà, quasi en 10 ans maintenant, à peut-être 1500 exemplaires, ce qui est pas dingue, et ce qui ne vaut pas beaucoup d'argent. En revanche, ça m'a permis quoi? De faire du coaching de chef d'entreprise sur de la prise de parole en public, sur... Alors, prise de parole, en fait, ça veut tout dire, prise de parole, parce qu'il y en a qui parlent très bien, mais qui savent pas quoi dire. Donc, comment construire un message, etc. Disons de la communication personnelle ou interpersonnelle en général. C'est aussi le livre qui m'a fait repérer par d'autres chefs d'entreprise et des élus pour écrire leur propre livre. Tiens, t'as écrit un bouquin, tu voudrais en écrire un pour moi? Bon, bah, ça fait déjà beaucoup, tout ce que je te dis là, on est sur des dizaines ou des... Ouais, bref, beaucoup de milliers d'euros.
Ouais, c'est ce que j'allais te
Tout ça en
demander, c'est
cube.
comment est-ce qu'on facture ça?
Bah, tu fais une facture, hein.
Ok.
La première fois, c'est facile. Je reçois un email d'un type qui me dit, même pas, je crois, de la femme d'un type qui me dit, mon mari dirige une entreprise, il organise un congrès, il a besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez nous rendre service? Bon, bah, le truc envoyé. En fait, j'avais créé un site qui était discoursdumanager.com et je recevais des messages comme ça. Et tu prends contact et tout. Et puis, bah, tu sais pas ce que tu vas facturer. Tu vois, moi, j'avais vendu ma première, j'avais pas 30 ans, ça c'est sûr. Et puis, tu factures, mais au doigt mouillé. Tu sais pas du tout. Ah, il faudrait un discours d'ouverture, un discours de clôture. Des gens que t'as jamais rencontrés, une boîte que tu connais pas, ils sont pas dans ta ville. Et puis c'est dans pour 10 jours, quoi. Et tu dis, ah, je sais pas, oh, ça doit faire dans les 2500 euros. Ah, ok, ben, on l'intégrera au budget, pas de problème. Le mec te dit ça. Donc, d'abord, tu te dis, cool, 2500 balles. Après, tu fais merde, il a dit oui tout de suite. J'aurais dû dire 5000. Et graduellement, tu augmentes tes prix. Et alors, à condition que la qualité suive, donc voilà, faut avoir une conscience professionnelle quand tu fais ça. Tu te dis pas juste, je prends le cash et je me casse. Mais bah, tu te déclares au tout début comme auto-entrepreneur et tu factures, hein, et tu fais comme tout le monde, t'apprends. Mais c'est du détail, ça, en fait. C'est des trucs qu'on se fait des grands mondes, mais c'est quand même très simple. Tu te déclares comme auto-entrepreneur en 5 minutes sur Internet, tu payes tes charges en 5 minutes tous les 3 mois. Enfin, c'est des problèmes de riches, tu vois. Dès lors que tu dois déclarer quelque chose, c'est que tu as à faire rentrer de l'argent. Donc ceux qui disent ah, c'est compliqué, bah ils essayent de rien gagner et on verra pour qui c'est compliqué, quoi. Enfin...
C'est intéressant. Donc en tout cas, même si ton livre, il te rapporte pas énormément d'argent directement par sa propre vente ou qu'il se vend pas énormément, il peut quand même te déclencher beaucoup d'opportunités.
Alors c'est ça qu'il faut se dire. Tu veux écrire un livre, pourquoi tu fais un livre? Un auteur américain. Très particulier, mais qui est un génie du marketing, te dit, mais en fait, c'est pas toi qui vends le livre, c'est le livre qui te vend. Et dans le
Ok. C'est
secteur
le livre qui
professionnel,
te
ça
vend.
marche très très bien. C'est-à-dire que tu ne fais pas le marketing du livre, c'est le livre qui fait le marketing de toi. Alors ça ne marche pas pour tout, mais ça marche quand même pour plein de trucs dès que tu es dans n'importe quel ouvrage professionnel, sur une spécialité, etc. Mais même sur du développement personnel, ça marche très bien. Alors à condition que ce soit pas le même truc que tout le monde, faut que tu aies un truc à toi, mais c'est ça qui te vend. Tu vois, les livres de droit m'ont permis de donner des cours dans plein d'endroits. Je pense à la fac de Laval où c'est la doyenne qui me contacte en me disant j'ai trouvé votre bouquin là, vous racontez vos années étudiantes, vous donnez des conseils, c'est super. Vous pourriez venir faire une conférence à nos étudiants?
Laval au
Je sais
Canada?
pas, toi. Non, malheureusement Laval en Mayenne, hein. Mais
Ah,
la
ok.
Mayenne, ça vous gagne.
Oui.
C'est comme la Bretagne et la
Bon,
montagne.
bah parfait alors.
Non, j'adore Laval en Mayenne. Tu vois, j'y vais, je fais une conférence de 2 heures. Je me dis, putain, merde, je les ai ennuyés, quoi. Ils ont l'air de se faire chier et tout. Et le lendemain, il y avait un forum des métiers du droit. Et ouais, j'étais avec mon éditeur. Et en fait, les étudiants défilaient pour acheter les bouquins.
Mmh.
Tu dis, bon, bah, je ne les ai pas tant ennuyés que ça. Et puis là, la doyenne se pointe et dit, vous ne devriez pas donner des cours et tout. Les étudiants ont adoré ce que vous avez fait hier. Et au final, c'était ça, c'était il y a plusieurs années. Tu es sûr que je passe tous les ans là-bas pour faire une petite conférence traditionnelle pour le forum des métiers et en général pour donner des cours bah, en général sur les livres que j'ai publiés. Alors, je donne pas de cours de droit constitutionnel parce que bah, il faut le temps d'y aller, mais des trucs plus spécialisés sur le droit des données numériques, etc. Et je le fais juste parce qu'il y a eu un bouquin. Alors juste, faut l'écrire. Mais ce que je touche comme enseignant ou comme conférencier rapporte beaucoup plus que ce que je touche en droit d'auteur.
Ah, c'est hyper intéressant d'entendre ça. C'est très rare d'entendre ça. Moi, j'entends souvent des histoires dont, bon, la plupart du temps, c'est des histoires de personnes qui aimeraient écrire un bouquin, mais qui ont du mal à le faire, à se lancer. Après, les autres histoires que j'entends souvent, ce sont des personnes qui ont commencé, mais qui ont du mal à terminer. Et après, ce sont des personnes qui ont lancé leur premier bouquin, mais qui, elles ont rien reçu, quoi. Mais là, des histoires de, bah, non, ton bouquin, c'est du marketing, c'est lui qui te vend. C'est hyper intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de personnes d'entendre ça.
Mais ça, ouais. En fait, c'est la question à se poser avant. Tu vois, un livre comme Fasting, très honnêtement, comme je suis pas médecin et qu'en France, on aime bien avoir quelqu'un qui a l'étiquette et le diplôme, j'aurais du mal à en faire. Des conférences sur le jeûne intermittent, par ailleurs, ça me passionne pas plus que ça d'aller faire des conférences là-dessus, parce que je pense que tu peux pas transmettre suffisamment d'infos utiles pendant ta conférence aujourd'hui. Par ailleurs, tu ne convaincras pas les sceptiques. Mais peu importe. Mais surtout le reste, bon, alors. Mais. Le truc où j'ai le plus converti, si on parle en euros, évidemment, c'est sur tout ce qui est communication, alors que ce soit écriture ou orale, bah parce que là, tu t'adresses à des chefs d'entreprise. Donc, vois les factures que tu peux faire, évidemment. Quand quelqu'un te dit, vous pourriez écrire mon livre, bah, c'est comme ce que je te disais pour le congrès d'une entreprise. La première fois, tu dis, bah oui, c'est 3 500 €. Puis finalement, tu t'aperçois que tu as passé un certain nombre d'heures et que ça ne fait pas tant que ça à l'heure. Donc, celui d'après, 5 000, 10 000. Et aujourd'hui, enfin, moi, j'ai pas de tabou, puisque de toute façon, quand on me pose la question, je réponds, c'est entre 20 et 25 000 euros pour que j'écrive le livre de quelqu'un. Ce qui me rapporte beaucoup plus que bah, j'avais publié un livre qui est plus en ligne parce qu'il n'est plus à jour, qui s'appelle Auteur-entrepreneur. J'en ai vendu un gros millier, on va dire. Donc, ça, voilà, si tu fais 3,5 parce que je le vendais pas cher, ça fait 3 500 €. Si je te dis que j'écris un livre pour 25 000 euros, devine ce qui me rapporte le plus d'argent.
Quoi. Yes, tout à fait. Ouais. Et en plus, t'as pas le marketing et tout ça à gérer après.
Si, mais ça se facture.
Oh. toujours la punchline. Quelle est la chose la plus dure du coup à gérer quand tu veux faire ton livre?
Quand tu veux faire ton livre ou celui d'un autre?
Quand tu veux faire ton livre.
Ton livre, c'est choisir. Choisir ton sujet et ne pas tout mettre dans ton livre. Combien de gens m'ont dit je voudrais parler de ça, de ça et de ça. Ben ouais, alors fais 3 livres. D'une part parce que si tu parles de ça, de ça et de ça, ton bouquin fait 500 pages. Faut pas être misanthrope, mais qui lit un livre de 500 pages aujourd'hui?
À part les fans de J.K. Rowling.
C'est un roman. Et puis les premiers Harry Potter font pas du tout 500 pages.
Ah, je m'en rappelle.
Les premiers, tu les lis dans le train. Les premiers, tu fais un an de Paris, tu l'as lu. Et c'est pour ça d'ailleurs que t'accroches.
Oh.
Et après, tu fais merde, le 4e tome, il est vachement épais. Ah ouais, mais j'ai lu les 3 premiers, je veux connaître la suite, tu vois.
Okay.
C'est un peu ça. Ouais. Et ouais, c'est toute l'astuce, c'est de choper les gens pour un truc. Mais les gens, quand ils achètent un livre, je parle de non-fiction, hein, je parle pas de roman. Ils s'en foutent de toi. C'est comme ça qu'il faut dire. Les gens qui disent oui, mais moi, j'aimerais et tout. Mais en fait, les gens, ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent de ce que t'as envie. Ils achètent un bouquin. Pas pour toi, même pas pour le livre, mais pour l'info qu'il y a dedans. Si ce qui les intéresse est page 73-74, tout le reste c'est en trop. Donc si tout le reste c'est 100 pages, 150 pages, soyons fous, ils vont lire parce que ça contextualise, ça peut leur donner des idées. Mais si le reste c'est 500 pages, aucun intérêt. Je pourrais être mesquin, Thomas Piketty, qui a sorti Le Capital au XXIe siècle, plus gros succès de librairie internationale chez un Français... Tu vois, le bouquin, je sais plus, il fait 1000 pages, un truc comme ça, peu importe. Sur Kindle, tu as les stats. Je sais pas si je peux les donner là parce que ça fait pas mignon. Mais enfin, plus de 70% des gens qui ont acheté ce livre ne sont pas allés au-delà de la page 3.
Comment ça se fait selon toi?
Ben, parce que t'achètes le livre parce que tu le vois à la télé. T'achètes le livre parce que c'est aussi une posture intellectuelle. T'achètes le livre parce qu'il parle bien, tu dis tiens, je le lirai plus tard. Mais enfin, entre une demi-heure de Thomas Piketty dans une interview et un bouquin de 1000 pages d'économie, c'est pas le même délire. Combien de gens ont des livres chez eux Parce que quand tu vas chez eux, tu vois qu'ils ont le livre.
Donc c'est plus un
Moi, tu
objet
vois, c'est marrant.
de statut social.
Oui, tout à fait. Et ça s'applique à plein de trucs. D'ailleurs, moi, je me rappelle d'aller voir une expo un peu particulière quand j'étais aux États-Unis, qui sont des corps. Ça s'appelle Bodies. Donc, ils ont récupéré des cadavres, ils ont enlevé la peau, ils te montrent les muscles, les organes, etc. Donc, ça ressemble à quoi les poumons d'un fumeur? Enfin, voilà, c'est. Mais aussi, ça ressemble à quoi un muscle strié, non strié, ainsi de suite. Et c'est marrant, j'ai un pote qui voulait aller le voir. Et au début, ça m'intéressait pas. J'ai fini par y aller parce que voilà, je vais souvent à Las Vegas. Et puis, à force de voir l'affiche, je me dis, bon, c'est 15 $, j'ai une heure à tuer, je vais aller voir. Mais lui, il voulait absolument aller le voir. Je lui dis, mais c'est quoi ton délire d'aller voir des cadavres? Il me répond, mais c'est une posture. Tu vois, genre, quand je vais rentrer en France, je dirais que je suis allé voir Bodies. Parce que ça a été interdit en France et moi, je suis allé le voir. Mais tout le monde s'en fout que t'as vu ça, tu vois. Et moi, mon étagère de bouquins dans mon salon, elle est pas immense parce qu'il y a des livres un peu partout, mais surtout sur mon Kindle, par exemple, ou ma tablette, ou ce que tu veux, ou parce que une fois que je les ai eus, je les offre. Plein de gens se disent, je vais acheter tel livre parce que ça fera bien dans mon salon. Mais qui se soucie que dans ton salon, t'as ceci ou cela? Enfin, si c'est ton souci, en tout cas, et que les gens le remarquent, t'as peut-être deux, trois trucs à travailler avant, quoi.
Ouais. Est-ce que tu as sorti ton livre sur la crypto ou pas finalement?
Pas encore, teasing.
Parce que quand on s'était parlé, je sais plus quand, peut-être il y a quelques mois, tu m'avais dit que tu sortais vers mai-juin 2020 un livre sur les crypto-monnaies.
Tout à
Mais
fait. Et je
ça.
n'avais pas commencé à
Mais.
l'écrire et je n'ai toujours pas commencé à
Ok,
l'écrire.
donc tu m'en as parlé sans avoir commencé à l'écrire.
Non, j'exagère. J'ai écrit trois chapitres et j'ai le chemin de fer. Voilà, si tu me demandes comment on écrit un livre, on sait vers où on va et après on se met à l'écrire. Aujourd'hui, je sais exactement où je vais, mais j'ai été dispersé dans diverses activités, dont le fait de profiter du confinement pour passer quand même plusieurs mois à rien foutre, faut bien dire ce qui est. Et puis j'ai un peu peaufiné, voilà, à croire que tout est possible que tu mentionnais.
Yes.
Parce que c'est un beau livre, il est en couleur et tout, donc
Ouais.
voilà.
C'est super.
Voilà, j'aimerais que ce soit un beau livre.
C'est super. C'est stylé. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que son livre est en couleur.
Ah, c'est très rare.
C'est vrai, c'est très rare.
Ça coûte une blinde à imprimer.
Oh,
C'est
ok.
hyper rare.
Bah ça pourrait être hyper intéressant. Franchement, tu devrais tellement faire des masterclass ou des choses où tu parles aux gens qui veulent écrire des livres, où tu leur donnes ces détails sur le prix.
Mais en fait, j'y pense.
Ouais.
J'avais commencé mon site ou mon blog de ghostwriter, si on veut, qui s'appelle The Bookmaker. Je crois que ça va être .net. Je dis je crois parce qu'il ne doit pas être mis à jour depuis 2017, parce que je l'avais fait pour trouver des clients. Et finalement, le site à peine mis en ligne, j'ai eu des clients et j'ai jamais eu. Enfin, dessus, il doit y avoir quand même 40 articles. Hein, c'est pas une page vide. Il y a déjà pas mal d'infos. Mais voilà, je reçois souvent des trucs là-dessus. J'avais pensé faire ça. Bon, puis après, on est absorbé par d'autres activités. Mais c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse. Moi, l'édition, ça me passionne. Surtout dans un monde où on dit que le livre est mort et en fait, il s'en vend de plus en plus chaque année. Et puis, c'est aussi un moyen de transmettre le livre. C'est juste qu'il faut repenser le livre, il faut repenser l'édition. Bah, c'est comme quand on a inventé les pistolets. Les vendeurs d'épées s'en portaient pas très bien, mais ça n'empêche pas qu'on peut réinventer le monde. Alors, c'est le mauvais exemple que j'ai donné en donnant des armes.
Oui.
Donc, quand on a inventé les ampoules, les vendeurs de bougies se portaient moins bien.
Ouais.
Voilà, je sais pas si on a un cut, mais ça m'arrangerait. J'assume, hein, c'est pas grave, les exemples sont ceux qui viennent.
Ouais.
Et voilà, et il y a plein de gens qui veulent écrire des livres et qui, comme pour beaucoup de choses, comme pour créer une boîte. T'as des gens, quand ils veulent créer une boîte, ils passent des semaines, moi je vois, parce que j'ai plein de gens qui me posent la question, ouais, mais alors est-ce que je fais une SARL ou une SAS, tu vois? Et c'est le truc qui les inquiète. Mais en fait, trouve un client d'abord, tu vois, tu poseras la question après. Et c'est pareil pour, ouais, mais alors mon livre, est-ce que je le fais en 14 sur 20 ou tu vois en 13 sur 10, mais on s'en fout, enfin écris ton bouquin déjà, tu vois. Et je sais pas si et mon préféré c'est ouais, mais je sais pas chez quel éditeur je veux aller. Mais alors si c'est ça ton problème et que t'as plein d'éditeurs qui te courent après, mais c'est pas grave, ça s'appelle un problème de riche, tu vois. En général, c'est quel éditeur voudra bien de moi. Mais pourtant et ça bloque plein de gens qui ont plein de choses à transmettre. Mais tu fais partie des gens nominés aux Restart Awards qui
Yes.
sont plein de gens inconnus ou presque, et dont je fais partie finalement, et ça ne veut pas dire qu'on a rien à transmettre, ça ne veut pas dire que tout le monde s'intéresse à nous, mais en tout cas, ceux qui s'intéressent à ce qu'on raconte ou à notre vision, juste parce qu'on a fait un truc avant eux, et donc ça les angoisse, et nous on peut leur dire, mais t'angoisse pas en fait. Parce que ce qui est bloquant, on peut chercher dans tous les sens, c'est la peur de merder, quoi.
Ouais.
Tu vois, je vais passer 200 heures à écrire mon bouquin, et il va rester au fond de mon tiroir.
Ouais. Mais c'est pas
Je vais me
grave.
sentir mal et tout le monde le saura.
Parce que je pense que le plus important, c'est le voyage, c'est le processus que tu as mis en place, le fait de te réveiller et d'écrire sur quelque chose qui te passionne, d'avoir ta petite tasse de café, de sentir tes progrès, je pense que c'est ça qui reste. Et il y a beaucoup de livres. Là, en ce moment, je suis en train de relire un livre de Cialdini, Robert Cialdini, celui qui a écrit Influence Manipulation. Un autre livre de lui qui s'appelle Présuasion. Peut-être que ça te parle. Et dans ce livre, il dit que, dans son livre Influence Manipulation, qui est un best-seller, et je pense même que c'est au-dessus du best-seller, bah que pendant des années, il s'est pas vendu. Il est sorti, puis tout le monde s'en fichait. Pour lui, ça a été un échec, et que après, plus tard, le livre a eu du succès. Et je sais qu'il y a beaucoup de livres comme ça, donc c'est peut-être ça qu'il faut se dire aussi, c'est que peut-être que c'est une question de timing aussi, et que ça va venir après.
C'est une question de chance, de timing et de persévérance. Le livre de Robert Greene qui s'appelle Power, j'ai eu la chance de le rencontrer, ben c'était cette année, je crois. Ouais, je pense que c'était cette année, juste avant le confinement. Je ne sais plus si je t'en avais
Tu
parlé,
m'en
enfin,
avais
j'étais tout
parlé,
fou,
ouais. Tu m'en avais parlé.
j'étais méga ravi, voilà, enfin voilà, c'est un personnage, quoi. Et alors, c'est marrant, quand on me le présente, on dit. Donc, son livre Power s'est vendu à 2,5 millions d'exemplaires dans le monde, et lui qui parle parfaitement français. Moi, je pensais, tiens, ça va être marrant et tout, je vais parler anglais. Non, non, pas du tout, le mec parle tellement bien français que bah, tu parles en français. Et il interrompt la personne, non, non, 2,5 millions que aux États-Unis. Et je crois, alors moi, les derniers chiffres que j'avais, mais voilà, c'est pas les chiffres précis et tout, il a atteint, je crois, les classements, tu sais, des best-sellers aux États-Unis, il y en a plein, New York Times et ainsi de suite, 5 ans après la sortie. C'est-à-dire que ça s'est fait très lentement par le bouche à oreille, ou parce que ça a été ceci ou cela, et paf! Et il y a eu un truc, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait pas fait son bouquin, il n'y aurait jamais eu de best-seller. Donc avant de te demander si tu fais un best-seller, fais ton bouquin.
Fais ton
C'est
bouquin.
le grand truc. Tu vois, là, récemment, j'ai été contacté sur LinkedIn par un type qui me dit, j'ai une idée de livre, mais je voudrais aussi en faire un documentaire et un long métrage. Est-ce qu'il me faut... Enfin, non, pas est-ce que le mec savait, il voulait, il savait ce qu'il voulait. Quel agent littéraire me recommandez-vous? Alors, l'agent littéraire, c'est qu'en France, tu t'es vraiment pas posé la question. C'est un métier à la marge qui, en plus, sert essentiellement, en fait, aux gens qui vendent déjà beaucoup et ne pas avoir à gérer les merdes. Mais enfin, un auteur indépendant n'a pas d'agent littéraire. Et je lui dis, bah, je sais pas, t'en es où de ton bouquin? Dis-moi de quoi ça parle, je vais pouvoir t'orienter. Ah non, non, mais c'est une idée, je préfère pas en parler, il n'est pas écrit. Ah ouais, ok, donc toi tu veux faire un documentaire, un long métrage et vendre tout ça à Netflix, c'est ton truc, t'as même pas un sommaire, quoi. Bon, mais commence par commencer.
Arnold, commence par commencer. Waouh. Vrai, vrai, vrai punchline. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton nouveau livre?
Le nouveau livre? Alors, c'est un livre assez particulier en fait. Parce que c'est un livre que j'ai écrit. Donc l'intitulé « Croire que tout est possible », ce n'est pas un livre de développement personnel et ce n'est pas un livre de pensée positive. C'est un livre qui parle d'une entreprise qui s'appelle VNB, VNB qui signifie vin et bière, qui est une franchise qui a commencé il y a 20 ans en Mayenne, quand je te disais que j'adorais la Mayenne, un petit magasin à Château-Gontier. Et là, on atteint les 230 en France. C'est une boîte qui a, je crois, 53 associés, qui fait aussi de l'import-export, qui met un bateau sur le Vendée Globe, qui organise un festival de musique, qui fait durer, donc du textile, j'ai dû le dire. Alors, quand je dis qui exporte, c'est qui exporte partout dans le monde. Tu vas au Vietnam, tu trouves leurs produits. Qui sponsorise un jeune boxeur qui vient de Laval, qui s'appelle Jordi Veiss, qui fait bosser 1500 personnes, moyenne d'âge inférieure à 30 ans. Qui invente et inventera toujours, et qui a été fondé par deux mecs qui se sont rencontrés dans un bar à bière qui s'appelle le Temple de la bière à côté de Laval, qui sont devenus potes et qui sont partis à l'aventure comme ça, sans pognon, sans diplôme, sans réseau, et ils ont voulu croire que c'était possible, et donc ils l'ont fait. Et donc ce livre, ça raconte leur histoire, celle de leur entreprise et de ceux qui la font vivre, qui la font grandir. Et puis j'ai divisé ça en 10 chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, pour pas que ce soit seulement un livre sur eux, l'idée c'est d'en tirer des leçons. Il y a un petit appendice que j'ai appelé à prendre ou à laisser, et qui est un mini business book, on va dire, et qui reprend les éléments de création et de réussite d'une entreprise. Comment s'associer, comment inventer son concept et le formaliser, le travail sur les valeurs, le travail sur l'expansion, le travail sur la diversification, etc.
C'est top. Ok, moi je pensais au premier abord que c'était un livre sur croire c'est exister, voilà, de développement personnel et de mindset, etc.
Mais c'est exactement ça. En fait, c'est exactement ça. C'est juste que si je commençais un livre en disant je viens de nulle part et je ne suis personne, mais regardez tout ce que j'ai accompli, mais finalement je ne suis qu'un homme ordinaire avec un parcours extraordinaire, tu vois. Ça n'intéresse personne. Ma vie, on s'en fout, et je suis pas plus, enfin, j'ai pas un parcours plus extraordinaire que beaucoup d'autres. Donc je raconte cette histoire à eux, qui n'est pas que les deux fondateurs, mais donc celle des 1500 personnes qui font cette boîte, qui la feront demain. Alors que le DG, c'est quelqu'un qui a mon âge, il est devenu directeur général à 33 ans. Ils lui ont fait confiance, justement, ils ont fait confiance à l'enthousiasme, à l'envie, à l'énergie, plutôt qu'au process. Et finalement, aujourd'hui, c'est une multinationale qui fonctionne comme une boîte familiale. Tu dis ça à un banquier, il se fout de ta gueule. Tu dis ça à un investisseur, le premier truc qu'il va faire, c'est de virer les fondateurs, tu vois, histoire de plus les avoir dans les pattes, parce qu'ils nous font chier avec leurs valeurs, ils nous font chier avec leurs principes et avec leurs rêves. On veut faire du cash. Et eux, ils sont proprios à 100% de ce qu'ils font. Il n'y a pas un investisseur dans la boutique. Donc, ils sont parfaitement libres. Et aujourd'hui, c'est ça qui les pousse, quoi. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire demain? Quand tu leur dis, oh là là, c'est fou ce que vous avez fait en 20 ans, et eux, ils te disent, mais attends, il y a 20 années qui viennent, quoi.
C'est top, c'est top.
C'est top. Et tu les vois, moi, chaque fois, je repars de là-bas, mais j'ai perdu 10 ans et j'ai gagné 3 tanks d'énergie et de points de vie, tu vois.
C'est super, ok. Bah c'est. Quand est-ce que tu as commencé à travailler dessus?
Ouf.
Tu l'as écrit en un mois aussi ou celui-là ou pas?
Non, celui-là, je l'ai écrit en très longtemps parce que j'ai rencontré beaucoup de gens pour l'écrire.
Ok.
L'idée, c'était pas de raconter que mon point de vue sur la boîte, même si évidemment ça transparaît, il suffit de m'écouter là. C'est de rencontrer justement tous ces gens dans la direction service, ceux qui inventent des produits. Je peux te donner un exemple tout con, qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est très propre. À... Il y a une bière qui s'appelle la Levrette, que tu trouves en grande distribution. C'est eux qui l'ont inventée, cette bière. C'était une blague. Genre, tiens, on ferait pas une bière à la con, voir si le marketing ça marche. Et ils ont fait un logo là qui ressemble au lapin crétin. Ils ont inventé un slogan mais marrant, une bière de position. Et passe. Et le truc, c'est un succès. C'est un succès. Et tu rentres, tu vois, comme tu vois, tu rentres dans un bière shop, dans un bec à bière, dans ce que tu veux. Tu demandes une levrette. Le serveur, il te la file.
Ah
Et tu
bah.
dis, et mec, t'es au courant que c'est ton concurrent qui l'a produit? Le mec, il est pas au courant. Tu vois, ils ont fait un truc tellement pas nombriliste et tellement drôle que c'est un succès, y compris chez leurs concurrents.
C'est top. C'est
Tu
top.
dis ça à un expert en marketing, il te dit non, mec, barrière d'entrée, t'y arriveras pas. Donc, il faut croire que tout est possible.
Faut croire que tout est possible. Quand est-ce que ça sort?
Enfin, officiellement, tout court le 15 octobre, partout dans environ 10 000 librairies en France et sur Internet. Donc, voilà, il sera trouvable. Et en plus, dans tous les VNB, il faut savoir que le 30 septembre, un des deux cofondateurs, qui s'appelle Jean-Pierre Derouet, a commencé un tour de France de toutes ses enseignes. Il va faire le tour des 230 magasins pour rencontrer ses staffs, parce que ben ils ont commencé, ils étaient quatre. Tu connais tout le monde, hein, quand t'es quatre. Quand t'es 1500, tu connais plus tout le monde. Et ben lui, il va à la rencontre de tout le monde.
C'est top.
C'est pas parce que c'est des franchisés, c'est pas parce qu'ils vont pas forcément rester longtemps, parce que c'est des étudiants ou des gens qui sont de passage, qu'il faut pas les connaître et qu'il faut pas apprendre d'eux. Donc, il va à la rencontre de chacun.
Super. Bah écoute, pressé de lire ce livre, pressé vraiment d'apprendre ce que tu as à partager parce que j'adore l'histoire que tu as racontée. J'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je pense qu'on a tous besoin de ce genre d'histoire, encore plus par les temps qui courent où tu vois, on peut se dire, ah non, c'est plus possible de faire ça, c'est compliqué, ça fallait le faire avant qu'il y ait le Covid ou tu vois, là vraiment se dire que les choses sont possibles. Et je suis hyper content de te connaître. Je suis hyper content de voir ce que tu proposes, ce que tu donnes au monde. Là, l'autre jour, je t'avais dit quand je suis parti à la Fnac et que j'ai vu ton livre, j'étais trop content, j'étais trop fier, j'étais, non, mais c'est, tu vois, j'avais envie de faire, mais je le connais! Tu vois, mais je me suis dit, bon, faut peut-être pas faire ça et voilà, vraiment, c'est cool et bonne continuation, Rémi.
N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça, je t'assure que tu
C'est
vaux
dans la
mieux
boîte.
que ça, tu vaux mieux que ça,
Comme ça, tu
non,
pourras
je
faire un
t'assure que
début
tu
à la
vaux
fin
mieux
de
que ça,
l'écouteur.
n'abandonne pas.